Je suis très heureux que ce matin on ait entendu parler de charisme, parce que j'avais dans l'idée que ce que le père Marie-Joseph avait exercé, c'était un charisme familial, et qu'il a donné ce charisme à la fraternité, il l'a légué. L'idée, c'est pour nous, on continue, c'est de nous dire mais comment vivre aujourd'hui de ce charisme. Et comme Jean-François Hier a fait le lien entre familiaris consortium, enfin, les intuitions profondes du jeune Karol Wojtyła et du père Marie-Joseph, il y a là quelque chose qui est tout à fait adapté pour s'éclairer mutuellement quand on lit familiaris consortio et quand on voit le charisme familial du père Marie-Joseph. Donc ce que je voudrais faire, si vous voulez, c'est parce que le document en lui-même, dans son contenu, en fraternité, nous l'avons étudié à plusieurs reprises depuis qu'il est sorti, notamment la dernière initiative en date dont je me souviens, c'est les jeunes foyers qui, pendant tout un temps, ont travaillé ce document. Donc l'idée, ça serait de regarder le document, de regarder la fraternité et de regarder également le contexte dans lequel nous sommes. Le document date de 1981 et c'est quand même 11 ans après que nous nous situons. Et la société a évolué, nous sommes face à des enjeux et parfois des mises en question où nous pouvons penser que le document que familiaris consortio vient encore et toujours éclairer les enjeux d'aujourd'hui. Et il s'agirait de voir comment, et de voir comment certaines choses que nous vivons dans le cadre de la fraternité répondent à des exhortations de Jean-Paul II dans familiaris consortio, mais y répondent par charisme. C'est-à-dire que nous n'avons pas forcément conscience, à certains moments, quand on est habituellement dans cette vie de fraternité, nous n'avons pas forcément conscience que nous exerçons un charisme. Et si on a fortement entendu, au moment des 10 ans après le dies natalis du Père, si on a fortement entendu que le charisme de la fraternité, il n'était pas que pour nous, il est pour le monde, eh bien il y a peut-être lieu d'essayer de mettre des mots sur certains points du charisme familial du père Marie-Joseph, de voir comment, à l'insu de notre plein gré, nous exerçons quelque chose de ce charisme, et de voir que là encore, nous sommes appelés à le partager au-delà. C'est un petit peu mon projet. En donnant quelques petits points. Aucune prétention à être exhaustif, et dans ces domaines-là, ça serait prétention de vouloir l'être. Donc, le père Marie-Joseph était à la fois un homme d'intuition, c'est vrai, il était un homme d'intuition et de passion. Et lui-même vivait son ministère, me semble-t-il, à partir de cette perception des enjeux de son temps. Il était soucieux de s'informer. Il était pétri, évidemment, de la tradition franciscaine et de l'éducation capucine qu'il avait reçue. Confère un enseignement du père Pio qui nous avait fait là-dessus, et également il avait enseigné l'histoire de l'Église. Et donc il était pétri de tout cela, et il avait le réflexe de chercher dans les textes de l'Église des confirmations de ses intuitions. Et quand il a lu ce que Jean-Paul II écrivait à partir de Redemptor Hominis, c'était pour lui une illumination. Il a été confirmé, et pour ce qui est de la famille, c'est évidemment Familiaris Consortio qui a été le document déterminant. Alors ces intuitions, je voudrais en rappeler juste 3. Ces points d'insistance. 1, le primat de la grâce, j'appelle ça comme ça. À savoir que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui donne sa grâce, c'est lui qui, par son esprit, transforme et sanctifie les personnes. Et donc, la première mission qu'il nous exhortait à remplir, c'est à nous laisser faire par Dieu, à compter sur l'action de Dieu. Il était contre le volontarisme ou l'activisme, un activisme qui ne serait pas sous-tendu par la grâce de Dieu. Et donc, les fruits de l'apostolat, ce sont des fruits de Dieu, qui passe dans une vie, qui passe à travers les dépenses d'énergie que l'on peut faire au service d'une mission, mais c'est les fruits du Seigneur, de la grâce de Dieu dans une vie. Prima de la grâce. 2, ben cette grande estime pour les familles, on l'a suffisamment dit, et que sa conviction qu'une des mission pastorale principale de l'Église, c'était de soutenir la vie des familles. Et ça se trouve textuellement dans les textes de Jean-Paul II, dans Gaudium et Spes, Vatican II. Et puis, que le sens de l'existence humaine, c'est la sainteté. Et par conséquent, pour les familles, le lieu où s'accomplit leur sanctification, c'est la famille. Il ne s'agit pas de chercher ailleurs, avec la vie sacramentelle et la vie fraternelle, bien sûr. Mais c'est la famille, la source de la sanctification des familles. 3. La communion des saints, c'est-à-dire une solidarité profonde entre l'Église du ciel et de la terre, et la capacité que nous avons d'attendre des saints une aide précieuse, nos grands frères, disait-il, un partage de leur propre charisme que nous sommes appelés et que nous pouvons vivre dans nos propres vies, et pour la famille, évidemment, la présence prépondérante de la Sainte Famille. Il se faisait un devoir de s'informer, il lisait les journaux. Je me propose ici de voir simplement les points forts de Familiaris Consortio avec les 4 missions de la famille et de les rapporter à des questions contemporaines. Voilà ce que écrit Jean-Paul II dans Familiaris Consortio numéro 3. L'Église, éclairée par la foi qui lui fait connaître toute la vérité sur le bien précieux que sont le mariage et la famille, et sur leur signification la plus profonde, ressent encore à la fois l'urgence d'annoncer l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, à tous, sans distinction, mais en particulier à ceux qui sont appelés au mariage et qui s'y préparent, à tous les époux et à tous les parents du monde. Elle est très profondément convaincue que c'est seulement en accueillant l'Évangile que l'on peut assurer la pleine réalisation de toute espérance que l'homme place légitimement dans le mariage et dans la famille. Voulu par Dieu en même temps que la création, le mariage et la famille sont en eux-mêmes destinés à s'accomplir dans le Christ, et ils ont besoin de sa grâce pour être guéris de la blessure du péché et ramenés à leur origine, c'est-à-dire à la pleine connaissance et à la réalisation intégrale du dessein de Dieu. Donc, une bonne nouvelle, c'est l'Évangile qui est une bonne nouvelle. J'aurais presque envie d'inverser un tout petit peu la formulation de Jean-Paul II en disant « La famille est une bonne nouvelle ». S'il s'agit d'annoncer l'Évangile à la famille, on peut aussi considérer que ce que dit l'Église de la famille, c'est une bonne nouvelle pour les familles. Un des enjeux que nous portons, surtout, je dirais, les anciens, les plus anciens, c'est-à-dire ceux parmi nous qui avons déjà entendu, reçu des paroles, lu des mots, etc., reçu des formations, un des enjeux est parfois le sentiment d'un certain déjà-vu. C'est-à-dire que ce que dit l'Église sur la famille, nous sommes un certain nombre, il faut reconnaître, à le connaître. Tout le problème, c'est de considérer que ça reste une bonne nouvelle. Et tout le problème consiste peut-être à penser que nous sommes entourés de gens qui ne l'ont jamais entendu. Quand vous voyez qu'un certain nombre de nos contemporains ne sont pas capables de reconnaître dans une Vierge à l'enfant, dans une église ou une cathédrale, que c'est la Vierge Marie qui porte Jésus, comment voulez-vous qu'ils sachent quelque chose de ce que l'Église dit de la famille, en termes simplement culturels? Et donc, il y a peut-être pour nous une certaine forme de conversion à penser qui consiste à dire que la famille, c'est une bonne nouvelle pour nos contemporains et ils ne la connaissent pas. Et ils y ont droit, comme on a droit à l'Évangile. Un autre point, c'est que la conviction que si véritablement, comme disait Jean-Paul II, c'est l'œuvre du Créateur qui est en jeu et l'accomplissement de cette œuvre du Créateur à travers la vie de la famille, et bien la conviction que les valeurs chrétiennes sur la famille, l'enseignement de l'Église sur la famille, c'est quelque chose qui rejoint les personnes dans la profondeur de leurs aspirations humaines les plus profondes. Annoncer l'évangile de la famille, c'est s'exposer à toucher les fibres les plus sensibles et les plus profondes de nos contemporains, parce qu'au fond, d'eux, c'est ça qu'ils attendent en termes de famille. Et quand on voit que tous les sondages disent, si tant est que les sondages disent la vérité, mais enfin, les sondages disent que, eh bien, la première valeur prisée par les plus jeunes générations, c'est la famille, on voit très bien que c'est une inspiration profonde avec, en bonne part, le fait d'être complètement démuni devant le défi de construire une vie familiale. C'est là que l'Église a un rôle à jouer. Donc, témoigner de ces valeurs, témoigner de l'évangile de la famille, c'est à la fois rejoindre les personnes dans leurs aspirations les plus profondes, mais c'est en même temps savoir que l'on touche la blessure du péché qui va se loger aussi dans les aspirations les plus profondes. Et si nous nous heurtons, quand nous parlons de la famille, à des agressivités, et ça arrive assez fréquemment, que l'enseignement de l'Église, que ce discours rencontre des agressivités, eh bien, c'est parce que nous touchons l'endroit, un des endroits, où la nature humaine est blessée par le péché, où à la fois elle souffre, à la fois elle rencontre son aspiration la plus profonde, et elle souffre des dégâts causés par le péché. Et les agressivités, les peurs, les réactions fortes ne sont jamais que des cris de douleur de la nature humaine blessée par le péché. Je crois que quand on le reçoit comme ça, on va se situer sur un autre registre que l'argumentation rationnelle par laquelle on veut essayer de faire comprendre. Mais on va pouvoir se situer sur le registre de l'accueil du cri de douleur et de la compassion et de la miséricorde. Le Père Marie-Joseph exhortait les jeunes, en particulier, à considérer que la foi rejoint leurs aspirations la plus profonde. Il fustigeait tout ce qui est de l'ordre de l'artificiel, du non-essentiel. Il exhortait les jeunes, en tant que jeunes, à écouter en eux les aspirations les plus profondes de leur cœur et à considérer et à accueillir Jésus comme celui qui seul est capable de rejoindre les aspirations les plus profondes. Et de la même façon, eh bien, nous sommes envoyés annoncer l'Évangile aux aspirations les plus profondes de nos contemporains. Donc, dans Familiaris Consortio, les missions de la famille, Jean-Paul II dit les devoirs de la famille. J'aime mieux le mot mission. Pour la famille, elles sont de quatre ordres. Former une communauté de personnes, servir la vie, participer au développement de la société, participer à la vie et à la mission de l'Église. Former une communauté de personnes. La famille, fondée par amour et vivifiée par lui, est une communauté de personnes. Les époux, hommes et femmes, les parents et les enfants, la parenté. Son premier devoir est de vivre fidèlement la réalité de la communion dans un effort constant pour promouvoir une authentique communauté de personnes. J'ai l'habitude de dire que la première mission d'une famille, c'est d'être une famille. C'est de devenir ce que l'on est. Cette communion conjugale plonge ses racines dans la complémentarité naturelle qui existe entre l'homme et la femme et se nourrit grâce à la volonté personnelle des époux de partager la totalité de leur projet de vie, ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. En cela, une telle communion est le fruit et le signe d'une exigence profondément humaine. Une exigence profondément humaine, un désir. Mais dans le Christ Jésus, Dieu prend cette exigence, il la confirme, la purifie et l'élève, la menant à sa perfection par le sacrement de mariage. L'Esprit Saint répandu au cours de la célébration sacramentelle remet aux époux chrétiens le don d'une communion nouvelle, communion d'amour, image vivante et réelle de l'unité tout à fait singulière qui fait de l'Église l'indivisible corps mystique du Christ. Un sacrement est quelque chose qui donne tout, c'est un geste et une parole qui donne tout, mais qui demande une vie à se déployer. Tout est donné, tout reste à déployer. Et tout reste à déployer dans une coopération, dans une alliance entre l'esprit et la personne. Et donc la vie familiale n'est pas une réalité acquise une fois pour toutes, juste parce qu'on s'est marié à l'Église, mais elle se construit sans arrêt. Je crois que ça ne mérite pas plus que ça de commentaires. Et ce que nous constatons, c'est que nos contemporains, croyants ou non, sont tout à fait démunis devant la mission de construire dans la durée la vie conjugale et la vie familiale, et ceci en dépit des connaissances psychologiques qui sont largement répandues. Il y a une espèce de vulgate de psychologie qui fait que on sait, enfin, beaucoup de gens ont des idées sur ce que c'est que de communiquer. Mais concrètement, le mettre en pratique, ce que nous constatons alors dans le regard sur notre société, si vous voulez, ce que nous constatons, c'est que premièrement, l'amour est identifié à l'affection et à l'attirance sexuelle. Ça passe pour la même chose. Si on n'a plus d'affection, s'il n'y a plus d'attirance, ben on va en conclure qu'on ne s'aime pas ou qu'on ne s'aime plus. L'amour est loin d'être pensé comme une décision que l'on prend, et cette décision consiste à se sentir responsable de l'autre et à se mettre au service de son cheminement de vie. Une décision à construire ensemble par communion à construire nos vies et le foyer que nous fondons et la famille que nous fondons ensemble. Et nous constatons également que les difficultés ou les crises ou les conflits, quand ils surviennent aujourd'hui, génèrent des angoisses profondes et des incapacités de faire face à ces altérités. On a l'impression d'être tellement différent que ça n'est plus possible de s'entendre et de construire une communion. D'où une décision extrêmement rationaliste et technicienne, eh bien, il faut qu'on se sépare. Quitte à ce que l'histoire recommence ailleurs, dans d'autres relations. Et donc, si vous voulez, sur ce point, quand, en tant que famille chrétienne, on désire vivre la continuité, la fidélité, la construction d'une vie conjugale, eh bien, comme sur d'autres points, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous sommes mis au défi d'aller chercher nous-mêmes les formations et les aides qui nous permettent d'affronter les difficultés qui sont normales d'une vie conjugale. Mais dans la société comme telle, il ne faut pas s'attendre à être très aidé. Et donc, eh bien, nous voyons que nous sommes, que nous profitons, que nous bénéficions d'initiatives, de conseils conjugaux, de sessions organisées ici ou là, je pense à celle d'Aline Lisotte, etc. Parce que ce sont des lieux qui nous permettent de cheminer, d'apprendre le dialogue, d'être accompagné, de passer des caps. Et je pense que la vie ordinaire de nos cordées s'est remplie au quotidien un rôle tout à fait similaire. Et nous sommes devant parfois la mission reçue individuellement de nous mettre au service d'autres familles, notamment par de l'écoute et le cas échéant par le témoignage des vies conjugales ou le renvoi vers des endroits propices. Quand je parlais d'un charisme qui déborde de ce que nous pouvons vivre en fraternité, un charisme de vie familiale que nous apprenons à construire avec humilité, vaille que vaille, avec la conscience expérimentée de notre faiblesse et de notre pauvreté, eh bien, malgré tout, le Seigneur nous envoie vers d'autres familles qui ont besoin, ou d'autres personnes qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'être suivies pour un moment, qui parfois ont besoin qu'on soit le relais pour les envoyer ailleurs. Eh bien, c'est aussi ça, mettre au service du monde contemporain des choses que nous recevons par la grâce de Dieu à travers le charisme familial du Père Marie-Joseph. La fraternité a un bagage riche de j'appelle ça culture familiale ou charisme familial. en complément de ce que nous avons entendu ce matin sur les charismes, un charisme peut être donné à une personne, il peut aussi être donné à un groupe, comme tel. Et s'il est donné à un groupe, eh bien, il se peut que dans la multiplicité des facettes de ce charisme, ce même charisme soit exercé par certaines facettes, par des personnes particulières, à certains moments, parce que d'autres en ont besoin. On reçoit un charisme à exercer quand d'autres en ont besoin. Et on devient le lieu du passage de l'action de l'esprit. Il y a aussi des charismes donnés à un groupe, et les uns et les autres, pas au même moment, pas ensemble, mais de façon tout à fait différenciée, que nous soyons complètement nouveaux dans la foi ou dans la vie franciscaine, ou des vieux routards, nous pouvons être à certains moments envoyés par l'esprit exercer des facettes du charisme familial dont nous bénéficions communautairement. Sur la question de l'altérité qui est tellement difficile à gérer, souvent on dit que notre société est une société du même. On se retrouve entre soi, on se retrouve entre gens qui ont les mêmes opinions, les mêmes façons de penser, les mêmes modes de vie, etc. L'altérité. On voit très bien dans le monde contemporain que on assiste à des évolutions, réduction de l'identité de la personne à sa propre représentation de son identité sexuelle. C'est-à-dire, l'identité c'est qui je suis. Dans le monde contemporain, dans la culture dans laquelle nous sommes, la question du qui je suis est quasiment réduite à la question quelle est ma sexualité. Comme si on avait trouvé son identité lorsque on a trouvé quelque chose de sa propre sexualité. Comme si la personne n'était que sa sexualité. Et je ne suis pas en train de minimiser la profondeur de la sexualité dans la vie d'une personne. Deux, un glissement de l'identité sexuelle, c'est-à-dire l'identité masculine et l'identité féminine, vers l'orientation sexuelle. Non plus « je suis un homme, je suis une femme », mais « je suis hétérosexuel, je suis homosexuel, je suis etc. » Donc, une évolution des représentations de la sexualité vers l'orientation sexuelle. Trois, une évolution de la notion de paternité et de maternité vers l'idée de parentalité. Cette notion peut être entendue, parfois nous l'employons, l'idée de parentalité, pour désigner l'attitude des parents à l'égard de leurs enfants. Mais dans l'acception qui est plus diffuse, c'est l'idée qu'il y a une relation entre un adulte et un enfant. Et on appelle ça parentalité. C'est-à-dire le fait de ne plus considérer que le fait que ça soit une relation d'un homme à un enfant ou d'une femme à un enfant ne se pose plus de la même façon. Autrement dit, ces glissements de sens qui viennent tout seuls parce que le mot, le vocabulaire courant est celui-là, ces glissements de sens, eh bien, ils se font tout seuls et ils se fondent sur une mentalité indifférenciée. C'est-à-dire une mentalité où il n'y a pas d'altérité. Et donc, si vous voulez, cette question de la sexualité et de l'altérité exige que nous-mêmes soyons au clair sur ces questions et que nous nous formions, ce que nous avons à peu près le souci de faire. Dans bien des cas, lorsque nous avons des discussions avec des collègues, avec des voisins, avec etc., nous nous apercevons à quel point l'univers médiatique dans lequel nous sommes formate les esprits. Et inévitablement, nous nous retrouvons comme les ringards, comme les cathos ringards, quoi. Conservateurs qui n'ont rien compris, qui ne sont pas dans le coup et qui sont tout à fait en dehors du progrès. Bien souvent, sur un plan strictement argumenté, sur le plan du débat argumenté, on n'a pas le bon rôle. Parfois, il faut assumer. Et on y va, vaille que vaille. Mais il y a une autre façon aussi de se situer. C'est de vivre notre masculinité et notre féminité. Point. De la vivre. Et de vivre les relations avec les enfants dans le climat sain et le plus sain possible qui, dans lequel nous essayons de nous situer pour leur permettre, les accompagner dans leur croissance à eux et non pas d'en faire une espèce de faire-valoir de notre propre narcissisme. Mais un accompagnement qui est centré sur l'autre, sur l'enfant, sur l'autre qui est homme, qui est femme. Autrement dit, ça suppose que nous assumions nos propres limites et les limites de notre identité sexuelle qui est ce qu'elle est. En tant que créature, nous sommes limités. Mais en même temps, nous savons très bien que par l'esprit, notre vie, avec ses limites, peut devenir le lieu de passage de l'amour, de la charité, de la grâce de Dieu. Et d'où le fait de vivre, simplement de vivre. Et à l'image de saint François, d'établir des relations fraternelles avec qui que ce soit, ou de chercher à établir. Le propre de la relation fraternelle, c'est que justement, la dimension d'attirance sexuelle est placée en arrière-fond de la relation. Dans une famille entre des frères et des sœurs, ils sont tous issus de la sexualité de leurs parents, et la sexualité comme telle, au sens exercé, n'a pas sa place dans une fratrie. Lorsque, spirituellement parlant, on établit des relations fraternelles, on ne se voile pas sur la dimension sexuée de ces relations. Et en même temps, on considère que nous sommes héritiers et créatures du même Père et que la dimension, érotique de la sexualité n'a pas le premier mot et n'a pas non plus le dernier mot dans ces relations fraternelles. Cela aussi, c'est un charisme de fraternité que nous recevons. En d'autres termes, spirituellement parlant, si vous voulez, le fait de vivre et de vivre notre identité sexuelle, d'établir des relations fraternelles, c'est la meilleure façon de se disposer à être le lieu de passage des dons de l'esprit, des charismes. Former une communauté de personnes, premier enjeu. Deux, servir la vie. Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, évoque les choses en trois termes. Il dit la procréation, le service de la vie, c'est quoi? C'est la procréation, c'est l'éducation, c'est le souci de toutes les générations. Donc, dépasser le cadre de la famille nucléaire, avoir le souci de toutes les générations. Moi, je trouve qu'en termes de service de la vie, depuis 21 ans, on pourrait aussi ajouter, et il l'a fait dans l'évangile de la vie, la question, et en lien avec la spiritualité franciscaine, le souci de la vie au sens écologique du mot. D'ailleurs, il avait utilisé le mot écologie humaine, etc. Il l'avait utilisé également. L'Église croit fermement que la vie humaine, même faible et souffrante, est toujours un magnifique don du Dieu de bonté. Contre le pessimisme et l'égoïsme qui obscurcissent le monde, l'Église prend parti pour la vie. Et dans chaque vie humaine, elle sait découvrir la splendeur de ce « oui », de cet « amen » qu'est le Christ. Au « non » qui envahit et attriste le monde, elle oppose ce « oui » vivant, défendant ainsi l'homme et le monde contre ceux qui menacent la vie et lui portent atteinte. La citation fait évidemment écho à Paul, qui dit que Dieu pour le monde en Christ n'a été que oui. Et Jean-Paul II fait appel à un état d'esprit qui regarde le monde et la vie à la manière du Créateur et qui s'émerveille sur la trace du Créateur, qui voit que ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il appellera cet état d'esprit une culture de vie dans l'évangile de la vie. Donc il fait appel à un regard contemplatif sur le monde et sur le don de la vie, sur la création, et c'est certainement un charisme de la famille franciscaine de voir la création sous l'angle du beau, du bien, et du vrai. Ça aussi, quelque chose que nous recevons, et c'est souvent un témoignage à donner, même s'il nous paraît banal, ce n'est pas anodin, de faire remarquer à nos contemporains que dans la vie autour de nous, il y a du beau, il y a du bon, il y a du vrai. Et donc l'accueil des enfants, c'est le service éminent de la vie. Et j'aime bien rappeler ici ce que dit Vatican II, notamment aussi, d'une procréation responsable. On y voit deux attitudes. Un, la générosité dans l'accueil des enfants. Deux, que ce soit une décision en conscience. Et la formulation de Gaudium et Spes, de cette délibération en conscience, qui est celle des époux, quand il s'agit de se poser la question d'avoir ou non des enfants, cette délibération, je la trouve spécialement bien formulée au numéro 50, paragraphe 2. Dans le devoir qui leur incombe de transmettre la vie et d'être des éducateurs, ce qu'il faut considérer comme leur mission propre. Les époux savent qu'ils sont les coopérateurs de l'amour du Dieu créateur et comme ses interprètes. Ils s'acquitteront donc de leur charge en toute responsabilité humaine et chrétienne, et dans un respect plein de docilité à l'égard de Dieu, d'un commun accord et d'un commun effort, ils se formeront un jugement droit. Ils prendront en considération à la fois et leur bien et celui des enfants déjà nés ou à naître. Ils discerneront les conditions aussi bien matérielles que spirituelles de leur époque et de leur situation. Ils tiendront compte enfin du bien de la communauté familiale, des besoins de la société temporelle et de l'Église elle-même. Ce jugement, ce sont en dernier ressort les époux eux-mêmes qui doivent l'arrêter devant Dieu. Dans leur manière d'agir, que les époux chrétiens sachent bien qu'ils ne peuvent pas se conduire à leur guise, mais qu'ils ont l'obligation de toujours suivre leur conscience, une conscience qui doit se conformer à la loi divine et qu'ils demeurent dociles au magistère de l'Église, interprète autorisé de cette loi à la lumière de l'Évangile. Terriblement équilibré, l'estime pour la conscience personnelle, éclairée par une vie spirituelle, éclairée par l'Écriture, éclairée par le magistère de l'Église est pourtant décision en conscience. Et donc Jean-Paul II redit, mais là je vais peut-être passer un peu plus vite que prévu, puisque Marie-France nous en a parlé hier, redit la pensée de l'Église sur la régulation des naissances, dont le principe c'est la non-dissociation de la dimension d'union et de procréation de la communion sexuelle des époux, et en disant que cette question-là ne peut être confiée à une solution technicienne. La contraception, c'est le fait d'un raisonnement technicien. Et une dimension technicienne de la régulation des naissances n'est pas en dignité à la hauteur du don de soi des époux l'un à l'autre. Il est clair que sur ce plan, l'Église, c'est certainement un de ceux, si ce n'est l'enseignement où l'Église est le plus en porte-à-faux avec le monde contemporain. C'est sûr que là, on rencontre une incompréhension massive, y compris, comme nous savons bien, au sein de l'Église. Et puisque nous ne sommes pas imperméables, et ça serait dommage de l'être, à notre société, nous voyons très bien que nous-mêmes sommes susceptibles d'être traversés par des idées et à dire, mais est-ce que cette question-là de la régulation des naissances, est-ce que c'est pas quand même quelque chose de complètement fou, enfin, pas raisonnable du tout, quand, apparemment, la pilule est une chose tellement raisonnable et tellement simple et facile. Et donc, sur ce plan, là encore, nous avons besoin parfois, de nous redire à nous-mêmes que c'est une bonne nouvelle pour les familles, que c'est une bonne nouvelle pour les couples, quoi. Et que cette bonne nouvelle rejoint la réalité profonde, le désir le plus profond des personnes. Et là, c'est En mon sens, toute la morale chrétienne fonctionne comme ça, mais c'est peut-être un point où on le sent plus. Il n'y a que quand on le vit que l'on sent par l'expérience que c'est vrai. Tant que ça reste dans la tête, on est porté parfois à douter que c'est vrai. Et c'est quand on le vit qu'on l'expérimente. Mais toute la morale chrétienne fonctionne comme ça. Et donc, le fait de dire que ce sont des couples qui se forment pour accompagner d'autres couples dans les méthodes de régulation des naissances, eh bien, c'est une saine application du principe de subsidiarité. Nous autres prêtres, nous pouvons en être convaincus de tout notre esprit, de tout notre cœur. On peut le dire avec un langage éventuellement raisonné, argumenté, mais on ne peut pas le faire comprendre de la même façon que les couples. L'éducation, deuxième mission de la famille pour ce qui est de servir la vie. Jean-Paul II en parle comme d'un ministère. C'est certainement un de ceux qui a poussé, bien sûr, le plus loin cette idée. Éduquer les enfants, c'est un ministère. Et au numéro 37 de Familiaris Consortio, il donne quatre valeurs déterminantes pour l'éducation des enfants. Une juste liberté face aux biens matériels, le sens de la dignité des personnes et donc de la justice. Le sens du don de soi par amour, donc la recherche de la communion, la valeur de la sexualité, le sens de la chasteté. Chasteté prise en son sens véritable, relation juste à l'altérité des personnes. Pas simplement synonyme d'abstinence sexuelle. La question de l'éducation dans le monde contemporain, c'est une grosse question. Et là encore, nous sommes pris dans une évolution où les rôles différenciés du père et de la mère sont peut-être moins visibles. C'est-à-dire que la présence aux enfants, surtout quand ils sont petits, et même après, il n'y a peut-être plus, comme il y a quelques décennies, des attitudes de père et des attitudes de mère strictement différentes. Il y a une autre façon de voir les choses. À mon sens, ce type d'évolution ne veut pas dire que c'est négatif. Si on le voit dans la perspective d'un plus grand respect et de l'égalité des personnes. Il y a peut-être des façons d'être présents les uns aux autres et aux enfants qui évoluent, y compris dans, je dirais, le bon sens, quand un certain nombre de responsabilités, de tâches, surtout les plus difficiles, sont partagées. Et quand ces tâches difficiles se situent à quelque part comme 3 heures du matin. Mais, donc on est là devant un discernement. Mais en même temps, la question de l'autorité est certainement une question déterminante de notre société. Et ça, les enseignants le savent très bien par expérience, combien de parents n'ont strictement pas d'autorité sur leurs enfants, dès tout petit. Et donc, l'autorité est une attitude d'exigence, mais qui vise à favoriser la croissance et le cheminement de l'autre, de l'enfant. L'autorité n'est pas une affirmation de soi, ce n'est pas un besoin d'affirmation de soi, ça serait le besoin de pouvoir, mais l'autorité, c'est l'attitude par laquelle autrui, à cause de cette relation, va croître et faire son chemin. Vaste question, parce qu'à la fois ça procède d'une forme de charisme, et en même temps, c'est certainement une des questions qui mérite beaucoup réflexion et formation à notre époque. Là encore, nous sommes souvent en position de discernement sur ce qui se vit dans notre société, et là encore, je crois beaucoup au témoignage, c'est-à-dire le fait que si on a des idées claires sur l'autorité, eh bien qu'on la vive. Point. Qu'on la vive. Et que le fait de la vivre, ben, ça porte des fruits parce que ça questionne à certains moments. Alors le lieu de ce discernement, c'est à mon sens, en tout premier lieu, la famille. Évidemment, le dialogue entre conjoints, c'est le premier lieu du discernement sur les attitudes que l'on a à l'égard d'autres, à l'égard des enfants. Et un autre lieu de discernement qui nous est donné, eh bien, c'est notre vie ecclésiale concrète et spécialement la prière et le dialogue entre frères et sœurs. Et c'est aussi ce qui se passe dans les cordées, que ce soit le thème de la réunion du jour ou que ce ne soit pas le thème de la réunion du jour, ces rencontres permettent de parler ensemble et notamment ça vérifie la justesse des attitudes que nous adoptons. La vie fraternelle nous permet cela, de vérifier la justesse de nos attitudes en termes d'éducation, peut-être aussi en termes de vie conjugale. Jean-Paul II parle d'un service multiforme de la vie, au sens où la fécondité est plus vaste que d'être parent, simplement. Et il fait appel à toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants et qui sont aussi appelées à vivre une fécondité, que ce soit parce que c'est choisi ou que ce soit dans un célibat par exemple, ou si ce n'est pas choisi, eh bien il y a moyen de vivre des fécondités multiples. Et je remets ici la préoccupation écologique qui, pour les franciscains, est quelque chose, je crois, qui ne peut pas nous laisser indifférents. Participer au développement de la société. Une chose que nous savons très bien, l'Église considère que la famille est la cellule de base de la société et que toute institution est au service de la famille dans une application du principe de subsidiarité. La famille est un but en soi. Les institutions de la société sont des subsidiaires, des services, des aides à la vie familiale. C'est la conception de l'Église sur la famille. Et la famille contribue à construire la société simplement parce qu'elle est une société de personnes, une communauté de personnes à échelle humaine, et parce qu'elle est le lieu où les enfants apprennent la vie en société. La culture globale de la société et de la vie sociale dépend de la culture vécue en famille. On se comportera plus tard en société comme on a appris à se comporter en société en famille. D'où, pour Jean-Paul II, la nécessité de cultiver en famille le sens de la communion. Si on veut que la société soit basée sur la communion et non pas l'intérêt ou la concurrence, il faut, au point de départ, cultiver le sens de la communion. Ce qui comporte un point très difficile et très complexe, parce qu'on peut très bien s'apercevoir aussi que des enfants qui ont intégré cette idée-là et qui, par éducation, ont intégré l'idée qu'on peut avoir des rapports fraternels avec d'autres, positifs, harmonieux, qu'on peut être bon, etc., parfois, dans la société telle qu'elle est, eh bien, ils se font humilier ou manquer de respect, et il peut arriver qu'ils soient tout à fait démunis devant cela. Donc, enseigner le sens de la communion et de l'amour ne veut pas dire ne pas prévenir, me semble-t-il, les enfants, et ne pas leur enseigner à se situer avec justesse dans les altérités. Toi, tu penses ça ? Ben moi, je pense ça. Point. C'est aussi une pédagogie de l'autorité. Parfois, des enfants souffrent dans leur milieu, enfants ou jeunes, lycéens, étudiants, souffrent d'une certaine idée qu'ils peuvent avoir de la charité, de la bonté, de choses à vivre. La question de la communion, Jean-Paul II, Familiaris Consortio, l'expérience même de communion et de participation qui doit caractériser la vie quotidienne de la famille, constitue son apport essentiel et fondamental à la société. Les relations entre les membres de la communauté familiale se développent sous l'inspiration et la conduite de la loi de la gratuité, qui, en respectant et en cultivant en tous et en chacun le sens de la dignité personnelle comme source unique de valeur, se transforme en accueil chaleureux, rencontre et dialogue, disponibilité généreuse, service désintéressé, profonde solidarité. En un mot, attitude fraternelle. Ainsi, la promotion d'une authentique communion de personnes responsables dans la famille devient un apprentissage fondamental et irremplaçable de vie sociale, un exemple et un encouragement pour des relations communautaires élargies, caractérisées par le respect, la justice, le sens du dialogue, l'amour. Donc, nous pouvons recevoir cette invitation à la communion comme une invitation à ne pas nous laisser gagner par la mentalité catastrophiste ou le pessimisme ambiant. Nous sommes traversés de part en part par ce pessimisme ambiant sur fond de crise. Et ceci, nous pouvons le faire en partant du principe que l'aspiration à la communion, c'est aussi une des aspirations les plus profondes de l'être humain. Nous ne nous rendons peut-être pas compte que si nous plaçons la relation avec des personnes, avec des collègues, avec qui que ce soit, sur un registre de communion, à quel degré ça peut fournir une bouffée d'oxygène à des gens qui n'ont comme seul regard sur le monde que la fenêtre de la télé. C'est pas, si vous voulez, une sorte de méthode Coué. C'est-à-dire, l'espérance dont nous parlons, c'est pas « oui, ça va aller mieux demain, ça va aller mieux demain, ça va mieux de jour en jour ». Mais c'est la certitude dans la foi que quoi qu'il peut nous arriver, Dieu est fidèle, qu'il est proche, qu'il est miséricordieux et provident. Et nous savons que la providence, dans la bouche du Père Marie-Joseph, c'est pas un vain mot. Nous pouvons, si vous voulez, entendre que toute relation à une personne en tant que personne procède de la gratuité. Nous sommes dans des logiques d'anonymat, de mondialisation, nous sommes dépositaires d'un charisme de fraternité. Et ça, c'est quelque chose que nous exerçons, que nous sommes peut-être invités à exercer en haut débit. Dans la citation que j'ai lue tout à l'heure, il y a un autre point, Jean-Paul II parle de la gratuité. Et ici, j'aimerais bien faire une petite incursion dans ce que Benoît XVI dit dans Caritas in Veritate, il introduit dans l'enseignement social de l'Église l'économie, la dimension du don et de la gratuité, numéro 34, 36 à 39. C'est quelque chose qu'il nous faut entendre. À l'époque de la mondialisation, l'activité économique ne peut faire abstraction de la gratuité, qui répand et alimente la solidarité et la responsabilité pour la justice et pour le bien commun auprès de ses différents sujets et acteurs. Il s'agit en réalité d'une forme concrète et profonde de démocratie économique. La solidarité signifie avant tout se sentir responsable de tous. Elle ne peut donc être déléguée seulement à l'État. Si hier, on pouvait penser qu'il fallait d'abord rechercher la justice et que la gratuité devait intervenir ensuite comme un complément, aujourd'hui, il faut dire que sans la gratuité, on ne parvient même pas à réaliser la justice. C'est l'idée, si vous voulez, que la gratuité dans les regards que nous avons, je pense notamment sur la vie professionnelle. Nous avons l'habitude, à cet endroit-là, par exemple, de contrats, enfin de relations contractualisées, de fiches de poste, de missions précises, etc. Il y a une façon de s'en tenir à ces missions qui est de faire que strictement ce qui est ma mission. Il y a une autre façon qui est beaucoup plus répandue qu'on ne pense, qui est qu'avec des collègues s'établissent des liens d'estime, d'amitié parfois, et que du coup on se rend des services mutuellement. Les services mutuels rendus, qui font qu'on ne négocie pas sur le temps de travail, sur quelques minutes, qui font qu'on se rend des services même quand c'est pas dans ma mission, ça, c'est la gratuité qui est déjà présente dans le monde du travail et qui, dans les logiques dans lesquelles nous sommes, sont toujours dans l'angle mort de la voiture, dans l'angle mort du rétro. On ne les voit pas parce que on n'est pas habitué, on n'est pas prédisposé à les voir. Mais l'économie fonctionne aussi et en grande partie parce qu'il y a des tas de gens qui vivent leur métier, leur profession, aussi avec une dimension de gratuité. 4. Participer à la vie et à la mission de l'Église. C'est la quatrième mission. La famille chrétienne est appelée à prendre une part active et responsable à la mission de l'Église d'une façon propre et originale en se mettant elle-même au service de l'Église et de la société dans son être et dans son agir, en tant que communauté intime de vie et d'amour. C'est ce que disait Jean-François hier. Si la famille chrétienne est une communauté dont les liens sont renouvelés par le Christ à travers la foi et les sacrements, sa participation à la mission de l'Église doit se réaliser d'une façon communautaire. C'est donc ensemble que les époux, en tant que couple, les parents et les enfants, en tant que famille, doivent vivre leur service de l'Église et du monde. Ils doivent être dans la foi, un seul cœur et une seule âme, aussi bien dans l'esprit apostolique commun qui les anime qu'à travers la collaboration qui les engage au service de la communauté ecclésiale et de la communauté civile. Donc, de nouveau, la famille, église à la maison, église domestique, eh bien, c'est en tant que famille, parce qu'elle est une famille et en vivant la vie de la famille, qu'elle construit la vie de l'Église. Et c'est d'abord une question d'ontologie, c'est ce qu'elle est qui construit la vie de l'Église. Après, on va lire dans Familiaris Consortio que c'est parce qu'elle annonce l'Évangile aux enfants, et d'ailleurs parce que les enfants annoncent l'Évangile à leurs parents, et qu'elle est une école de prière, etc. Oui, elle construit l'Église par ce qu'elle fait, mais d'abord par ce qu'elle est. Jean-Paul II reprend les trois conditions, la triple dignité du baptisé, qui est d'être prêtre, prophète et roi, et en transposant sur la famille, la dimension de sacerdoce, c'est-à-dire la prière en famille, la vie spirituelle vécue en famille, la dimension prophétique, l'annonce de la parole, le témoignage dans la famille, c'est par l'évangélisation réciproque des parents et des enfants. La dimension royale, c'est-à-dire la gestion de la création dans la famille, c'est par le service concret des personnes avec tous les moyens matériels et autres dont la famille dispose, qu'elle met en œuvre, dont elle use pour la gloire de Dieu. Donc, chez Jean-Paul II, la dimension communautaire de l'engagement. Sur ce plan, pour ce qui est de la vie de l'Église, nous sommes très déficitaires en termes de pastorale familiale. Pratiquement, il n'y a que des prêtres qui en ont le goût personnel qui font de la pastorale familiale. Pour le reste, les structures ecclésiales habituelles dans lesquelles nous sommes établissent des relations toujours de paroisse ou de curé à individu, de curé à chrétien. Et il y aurait moyen certainement d'imaginer que certaines missions soient confiées à des couples, en tant que couple. Je n'en connais pas beaucoup. Je sais que souvent les chefs de groupe scouts, c'est des couples. Mais c'est un mouvement éducatif. Là aussi, le père Marie-Joseph nous a légué une fraternité où les relations sont fondamentalement fraternelles, évidemment. Mais où vous avez des relations particulières entre personnes qui élargissent les relations familiales. Nous sommes mis en position de frères et de sœurs, mais nous sommes aussi mis en position paternelle et maternelle élargie, en position d'oncle et de tante, en position de grands-parents, de grands-frères, de grandes-sœurs. Ceci indépendamment et au-delà des stricts liens de famille, et pas seulement parce que le choix des parrains et des marraines va bon train au sein même de la fraternité. Pas seulement, mais de fait, quand on est dans des temps fraternels, eh bien, des célibataires exercent des missions d'oncle, de tante, de frère, de sœur. Des parents exercent des missions momentanément de parents, de père, de mère, en prenant soin d'un tel qui a un gros chagrin pour un moment. Enfin bref, la vie fraternelle, c'est un élargissement de ces relations fraternelles nucléaires vécues en famille, et il nous est donné de les vivre. Pour ce qui est de la construction de la mission de l'Église, de la vie de l'Église, je pense que là encore nous avons un charisme, nous avons un patrimoine. C'est quelque chose à construire. À l'occasion, dans nos engagements en paroisse, ça peut être peut-être, que sais-je, avec un appel de l'Esprit, s'il se manifeste comme ça dans vos vies, un jour ou l'autre, un appel de l'Esprit à étendre d'une façon ou d'une autre, de façon souvent inattendue, ce type d'état d'esprit, y compris à des groupes paroissiaux. Je pense notamment que c'est plus facile peut-être dans des paroisses où il y a des groupes de jeunes foyers qui se retrouvent à la sortie de l'école, qui se retrouvent à la messe de 11h ou à la messe des familles du samedi soir, etc. et qui se retrouvent ensemble dans l'église et qui de toute façon créent des liens de solidarité entre elles, mais de dire que là, il y a pas seulement des réseaux d'amitié, mais des réseaux de vie ecclésiale qui se construisent. Et il n'y a pas de raison que ces réseaux de vie ecclésiale s'en tiennent à seulement une génération, la génération de jeunes foyers qui ont des enfants petits. Il y a peut-être moyen là-dedans de solliciter de grands-parents, des charismes de grands-parents élargis, de solliciter des jeunes, des ados, des charismes de grands frères ou de grandes sœurs élargies. Je ne sais pas. C'est des idées qui me sont venues comme ça en réfléchissant à cette question. Jean-Paul II. Je me sens poussé à demander à ce sujet un effort particulier aux fils de l'Église. Dans la foi, ils ont une pleine connaissance du merveilleux dessein de Dieu. Ils ont donc une raison de plus de prendre à cœur la réalité de la famille dans ce temps d'épreuve et de grâce qui est le nôtre. Ils doivent aimer la famille de façon particulière. C'est là une consigne concrète et exigeante. Aimer la famille signifie savoir en estimer les valeurs et les possibilités en cherchant toujours à les promouvoir. Aimer la famille signifie reconnaître les dangers et les maux qui la menacent afin de pouvoir les surmonter. Aimer la famille signifie faire en sorte de lui assurer un milieu qui soit favorable à son développement. Et c'est encore une forme éminente de l'amour que de redonner à la famille chrétienne d'aujourd'hui, souvent tentée de se décourager ou angoissée par les difficultés croissantes, des raisons de croire en elle-même, dans ses richesses de nature et de grâce, dans la mission que l'Église lui a confiée. Les chrétiens ont en outre le devoir d'annoncer avec joie et conviction la bonne nouvelle sur la famille, laquelle a absolument besoin d'écouter encore et sans cesse et de comprendre toujours plus profondément les paroles authentiques qui lui révèlent son identité, ses ressources intérieures, l'importance de sa mission dans la cité des hommes et dans celle de Dieu. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, le Père disait très souvent ça. « Oh, alors c'est beau !»